Pourquoi Afrique ? Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition du 22 janvier 2016. En direct de Washington, Tatiana Mosso et Anne Albertson.
De nouvelles violences ont fait au moins un mort à Bujumbura, juste après l'arrivée d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, venue s'entretenir avec le gouvernement et l'opposition.
En Tunisie, la contestation contre le chômage partie de Kasserine s'est étendue hier à de nouvelles villes, 5 ans après la révolution, un air de déjà-vu.
Les États-Unis, l'application de nouvelles règles drastiques pour les personnes ayant séjourné en Iran, en Irak, en Syrie ou au Soudan.
Après la signature des accords USA-Iran, les parlementaires républicains américains font pression pour l'adoption de sanctions encore plus dures contre l'Iran, à suivre dans nos dossiers du jour.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Tout d'abord, le journal. De nouvelles violences ont éclaté jeudi à Bujumbura, faisant un mort juste après l'arrivée d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU dans la capitale du Burundi. 15 ambassadeurs sont venus s'entretenir avec le gouvernement et l'opposition. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Plusieurs centaines de manifestants pro-gouvernementaux ont accueilli fraîchement les diplomates. Des explosions et des tirs ont retenti dans plusieurs quartiers de la capitale et un adolescent a été tué par la police selon des témoins et une source administrative. Ces violences meurtrières sont devenues régulières à Bujumbura depuis le début de la crise politique en avril 2015 lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature pour un troisième mandat controversé. Il a été réélu en juillet. L'opposition dénonce une violation de la Constitution et des accords de paix d'Arusha. Elle a annoncé jeudi placer à sa tête le général Godefroy Niombare, ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, puis patron du Service national du renseignement. Lors d'une réunion prévue vendredi, les diplomates onusiens espèrent convaincre le président Nkurunziza d'accepter le déploiement de 5000 soldats de l'Union africaine. La date limite pour que le Burundi accepte le déploiement de la Maprobu est passée depuis longtemps, mais l'Union africaine n'a pris aucune mesure.
La Cour pénale internationale a débuté l'audition de 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre de l'ex-chef de l'armée de résistance du Seigneur, Dominique Ongwe, parmi lesquels l'enrôlement d'enfants.
En Tunisie, la contestation contre le chômage, partie de Kasserine, s'est étendue hier dans de nouvelles villes. 5 ans après la révolution, cela ressemble fort à du déjà-vu. Mélisse Hegel.
Le premier ministre Habib Essid a dû écourter sa participation au forum de Davos. Il a annoncé un conseil des ministres exceptionnel pour demain samedi à Tunis. Les protestations contre le chômage sont parties de Kasserine, dans le centre du pays. La police usait de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui bloquaient des routes et qui jetaient des pierres malgré le couvre-feu en vigueur. Des manifestations ont également eu lieu à Gendouba, Gafsa, Kébili et Zouklahad, où un poste de gendarmerie a été incendié. À Sidi Bouzid, des jeunes en colère ont brûlé des pneus et jeté des pierres sur la police. Le centre-ville où le jeune Mohamed Bouazizi s'était immolé fin 2010 était entièrement bouclé. C'est de cette ville qu'était partie la révolution de 2011 qui a chassé Ben Ali du pouvoir. 5 ans plus tard, le berceau du printemps arabe a pu organiser des élections libres, mais ne parvient pas à relancer son économie, très affectée par les attentats djihadistes. Le chômage dépasse les 15% et atteint le double chez les jeunes diplômés.
Égypte, raid de la police au Caire. 6 personnes, dont 3 policiers et 1 civil, ont été tués jeudi dans l'explosion d'une bombe lors d'une descente dans un appartement du Caire, soupçonné d'être une cache pour des activistes, selon le ministère de l'Intérieur.
En Somalie, une voiture piégée a explosé jeudi devant un restaurant de la capitale, Mogadiscio, et une fusillade nourrie a suivi, selon la police. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais les rebelles islamistes Chebab, liés à Al-Qaïda, ont déjà mené de nombreuses actions similaires. Les Chebab, qui veulent renverser le gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, mènent régulièrement des attaques dans la capitale.
Idriss Déby à Ouagadougou, le président tchadien a affirmé que le terrorisme était pire qu'Ebola lors d'une visite de solidarité dans la capitale burkinabé, victime d'une attaque djihadiste qui a fait 30 morts. Le Tchad est un pivot de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram en Afrique subsaharienne et arbitre également l'état-major et abrite, pardon, l'état-major des opérations françaises Barkhane qui lutte contre les groupes djihadistes au Sahel.
En Guinée-Bissau, les députés du principal parti d'opposition et ceux exclus du parti au pouvoir se sont réunis hier au Parlement malgré la suspension des travaux par le président de l'Assemblée. Le pays s'enfonce dans une nouvelle crise, John Lindon.
La séance a démarré à huis clos sur ordre du président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kazama. 41 députés du Parti de la Rénovation sociale, la formation d'opposition et 15 dissidents du PAIGC étaient présents. Ces 15 députés ont été exclus du parti au pouvoir pour s'être abstenus lors du vote sur la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Carlos Carrera. Une nouvelle séance lundi a failli tourner à la foire d'empoigne. Depuis hier, le pays a de fait deux parlements et un gouvernement. La veille, l'ex-premier ministre Domingo Simoes Pereira, limogé en août 2015 par le chef de l'État José Mario Vaz, a dénoncé un coup d'État orchestré à partir de la présidence. Il avait appelé les militants à s'éteindre prêts à défendre la victoire conquise par les urnes. L'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, très inquiètes, appellent au dialogue dans ce pays instable qui a déjà connu plusieurs coups d'État.
Le procès des assassins présumés du général Robert Gaye, ex-chef de la junte en Côte d'Ivoire, tué en 2012, a été renvoyé au 25 janvier. Les avocats de la défense ayant estimé que les faits sont couverts à la fois par une amnistie et la prescription de 10 ans.
La Sierra Leone a enregistré un second cas d'Ebola, une proche de la première victime décédée la semaine dernière dans le nord de ce pays où l'arrêt des chaînes de transmission de la maladie avait été déclaré mi-janvier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont commencé hier à appliquer les nouvelles règles plus contraignantes concernant les exemptions de visa pour les personnes qui ont séjourné en Iran, en Irak, en Syrie et au Soudan. Eric Manirakiza.
Le département de la sécurité intérieure a décidé que les visiteurs souhaitant venir aux États-Unis et qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan ou en Syrie depuis 2011 auront à présent besoin d'un visa. Les personnes qui ont la double nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne devront aussi solliciter un visa. Cette contrainte administrative devient obligatoire, même si ces personnes viennent de la quarantaine de pays exemptés de visa. Ces nouvelles mesures ont été décidées dans la foulée des attentats de Paris en novembre dernier et de San Bernardino début décembre. La loi votée par le Congrès a été signée par le président Barack Obama. Environ 20 millions de personnes viennent aux États-Unis chaque année sans visa pour des séjours d'au moins de 90 jours, dont quelques 13 millions d'Européens qui doivent remplir en ligne le formulaire ESTA.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a reconnu jeudi qu'une partie des fonds que l'Iran va récupérer grâce à la levée des sanctions américaines va financer certaines de ses organisations militaires considérées comme terroristes par Washington. Le Trésor américain évalue à 55 milliards de dollars la somme que Téhéran doit empocher du fait de l'allègement des mesures de rétorsion contre son économie grâce à la mise en œuvre le 16 janvier de l'accord international de Vienne scellé en juillet dernier sur le contrôle du programme nucléaire iranien.
En dépit de l'hiver qui s'est installé en Europe, les migrants et les réfugiés venant de Turquie continuent d'affluer en Grèce. Au péril de la traversée maritime s'ajoute maintenant le danger du froid. Les précisions de Michel Joseph.
Ils sont environ 1600 à débarquer quotidiennement sur les côtes grecques depuis le début de l'année, soit 20 fois plus qu'en janvier 2015, année qui a vu 1 million de personnes chercher asile en Europe. Le voyage est particulièrement dangereux en hiver, explique la travailleuse humanitaire Amy Papajohn. C'est maintenant un risque au niveau de la santé et de la sécurité, les migrants débarquant complètement gelés des canaux. Autre facteur, la mer elle-même est plus agitée durant l'hiver, donc plus dangereuse. Rien que la semaine écoulée, 19 personnes, y compris 3 enfants et un nourrisson, ont péri des suites de noyades. Malgré tout, les chanceux parvenus à destination disent que, compte tenu de la situation dans leur pays d'origine, ils n'avaient pas d'autre choix que de prendre le risque d'emprunter la mer pour se rendre en Europe.
4 réfugiés syriens sont arrivés jeudi soir au Royaume-Uni après avoir quitté la jungle de Calais, au lendemain d'une décision de justice qui pourrait entraîner, selon les experts, la venue de beaucoup d'autres. Un tribunal britannique a ordonné mercredi au ministère britannique de l'Intérieur de laisser 3 adolescents et un jeune adulte syrien entrer au Royaume-Uni pour rejoindre des membres de leur famille qui s'y trouvent déjà le temps que leur demande d'asile soit considérée. Selon le règlement européen appelé Dublin 3, une demande d'asile doit être examinée par le le premier pays européen dans lequel l'étranger est arrivé.
Les conclusions d'un juge britannique impliquant l'État russe et Vladimir Poutine dans le meurtre en 2006 de l'ex-agent du KGB Alexandre Litvinenko et ont déclenché une tempête diplomatique jeudi entre Londres et le Kremlin. Dans le rapport de l'enquête publique, le magistrat instructeur Robert Owen a dit avoir réuni des preuves qui établissent clairement la responsabilité de l'État russe dans la mort de M. Litvinenko, empoisonné au polonium-210, une substance radioactive extrêmement toxique et quasiment indétectable il y a plus de 9 ans à Londres. On retrouve la Minute Éco avec Arzouma Compaoré.
Une zone franche à Djibouti pour favoriser les échanges avec la Chine à travers la signature de 3 accords économiques. Un premier accord prévoit la construction d'une zone franche de 48 km², dont la première tranche de 1,5 km² sera fonctionnelle d'ici la fin de l'année. Le deuxième accord a pour objectif de préciser le rôle de la plateforme de transbordement et de redistribution de Djibouti avec la Chine. Et enfin, un troisième accord portant sur la mise en place d'un cadre légal permettant l'afflux rapide de banques chinoises à Djibouti et prévoyant la création d'une chambre de compensation au profit des opérateurs économiques de Djibouti. Pékin envisage de mettre en place une nouvelle route de la soie entre l'Afrique et la Chine. Des sabotages d'oléoducs entraînent la fermeture de 2 raffineries au Nigeria. Mardi, le ministre de l'Énergie, Babatunde Fashola, a estimé à 2,3 millions de dollars les pertes que ces attaques fréquentes occasionnent. Malgré sa première place de producteur africain de pétrole, le Nigeria continue d'importer des produits pétroliers par manque de possibilités de raffinage. Corruption à Alger, 4 sociétés dont l'italienne Saipem et l'allemande Funkwerk sont devant la justice pour détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, blanchiment et corruption dans le cadre de marchés conclus gré à gré avec des compagnies étrangères. Un contrat de plus de 110 millions d'euros en contrepartie de la cession d'actions accordée à Funkwerk Algérie et un autre avec Saipem de 537 millions d'euros pour la construction d'un gazoduc entre l'Algérie et l'Italie qui n'a jamais été construit pour écouter 15 ans de prison et une amende de 3 millions de dinars.
Maintenant, notre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Tatiana.
La deuxième journée du groupe B du CHAN 2016, c'était hier.
Oui, la RDC a remporté hier à Boutaré sa deuxième victoire, 4-2 face à l'Angola, assurant ainsi sa qualification pour les quarts de finale du CHAN 2016 réservé aux joueurs locaux. Les Congolais avaient battu l'Éthiopie 3-0 lors de la première journée. En revanche, le Cameroun, qui partait avec les faveurs de pronostic, a été tenu en échec 0-0 par les Éthiopiens à l'issue des matchs sans éclat.
Et quels sont les matchs du jour?
Eh bien, dans le groupe C, la Tunisie joue contre le Nigeria, tandis que la Guinée affronte le Niger.
L'ancienne star ivoirienne Basile Boli, relaxée par la justice française.
Oui, la cour d'appel de Versailles, près de Paris, a relaxé mercredi l'ex-footballeur Basile Boli, qui était poursuivi pour abus de confiance dans la gestion d'une association de coopération avec la Afrique qu'il dirigeait. L'ancien défenseur central de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France, âgé de 49 ans, et son ex-bras droit, Patrick Zivanovic, ont toujours clamé leur innocence. Ils ont donc été tous relaxés.
Des chiffres records en matière de transferts.
Oui, le marché des transferts dans le football a battu son record de l'année précédente avec plus de 4 milliards de dollars investis en 2015. Dopé par l'Angleterre et des nouveaux acteurs asiatiques, selon un rapport de la FIFA publié ce jeudi, le montant est 2,6% mieux qu'en 2014. Au niveau des clubs acheteurs, ceux de l'UEFA continuent de dominer le marché, note FIFA TMS, mais depuis 2011, un nouvel ordre mondial a émergé, faisant allusion aux clubs en Asie.
Cyclisme, le Tour Amissa Bongo au Gabon.
Oui, victoire du Marocain Adil Djelloul de l'équipe Skydive Dubaï qui a remporté la 4e étape de ce tour à Obam au Cameroun. Présent au Gabon dès la 2e édition en 2007, il s'est toujours rapproché de l'excellence sur la route de la tropicale sans jamais être récompensé. L'Italien Andrea Pallini conserve toujours le maillot jaune. Ce vendredi, le peloton mènera les coureurs de Meyokie au croisement des 3 frontières, celle du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun à Oyem. Et puis, Tatiana, pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Los Angeles s'incline 102 à 115 face à Cleveland. Détroit perd 99 contre 115 pour la Nouvelle-Orléans. Memphis l'emporte de justesse 120 à 101 face à Denver.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours dans Le Monde aujourd'hui, nous passons à nos dossiers du jour. La Tunisie a réussi la transition politique après la révolution du printemps arabe, mais les disparités économiques persistent, suscitant des remous qui menacent la stabilité du pays. Pour une analyse de la situation actuelle, Modibo Dembélé a joint le géographe tunisien Habib Ayeb, géographe tunisien.
Je n'irai pas jusqu'à parler d'une explosion aujourd'hui. On ne sait rien. Pour le moment, tout est possible. Le pourquoi, c'est relativement simple. C'est que pendant 5 ans, toutes les questions sociales ont été tout simplement oubliées et aucune des revendications des populations pauvres, marginalisées, oubliées depuis des décennies, toutes ces revendications ont été tout simplement mises aux oubliettes et abandonnées.
Le premier ministre tunisien au forum de Davos en Suisse déclara que l'objectif principal est de trouver un nouveau modèle de développement qui s'appuie sur la justice sociale. Est-ce possible d'atteindre cet objectif avec ce gouvernement?
C'est une grosse blague.
Et pourquoi?
Et parce qu'il est là depuis un an, tout ce qu'il fait, c'est exactement le contraire. Tous les gouvernements qui ont pris le pouvoir depuis 2011, ils font absolument le pouvoir. Ils vont même jusqu'à prétendre qu'il n'y a pas des problèmes sociaux. Toute l'économie est orientée vers un libéralisme sauvage que même Benali n'a pas osé adopter. Il n'y a aucune indication dans la politique du gouvernement qu'on est à la recherche d'un nouveau modèle. Et le fait même, quand le Premier ministre tunisien participe à Davos, franchement, ça n'indique pas une recherche d'un nouveau modèle. Ça indique une soumission totale à un libéralisme, au modèle libéral, mais dans sa version la plus sauvage.
Que proposez-vous au gouvernement en tant que membre de la société civile pour résorber le chômage et l'exclusion sociale?
Je revendique, je demande qu'il quitte le gouvernement et qu'il y ait éventuellement de nouvelles élections, mais surtout qu'ils arrêtent de s'entêter dans cette orientation libérale et que l'État prenne en charge les questions sociales. On ne va pas repenser un nouveau modèle et attendre pendant 50 ans. On sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut créer des emplois, préparer le système d'enseignement, s'occuper de la santé, des infrastructures, de l'environnement, de nourrir la population. C'est ça ce qui manque. On n'a pas besoin de perdre 10 ans à essayer de trouver un nouveau modèle. On a besoin d'actions immédiates, tout de suite, axées sur l'eau sociale et surtout les générations et les régions qui ont été oubliées, marginalisées depuis maintenant plus de 60 ans.
Quelle est l'atmosphère qui prévaut actuellement à Kasserine?
C'est une atmosphère d'affrontement. Jusqu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas encore de mort, mais c'est un affrontement quotidien entre la population locale qui demande à vivre tout simplement et la force de la police qui s'oppose à ces revendications.
C'était Habib Ayeb, géographe tunisien, joint par Modibo Dembélé. Au Mali, nomination des gouverneurs des deux nouvelles régions de Taoudéni et Ménaka, créées dans le nord du pays. Selon les autorités, cette décision s'inscrit en droite ligne des accords de paix qui prévoient une décentralisation accrue. Avec le nouveau découpage, le Mali compte désormais 10 régions. L'ancien ministre de la décentralisation, Ousmane Sy, était au micro de Kadiatou Traoré.
Ça fait partie des derniers textes qui avaient été pris par le dernier gouvernement de APT et il avait créé, je crois, une dizaine ou une douzaine de régions. Ménaka et Taoudéni font partie de ces régions qui avaient été créées. Il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale depuis 2012. Je n'ai pas en tête les références de cette loi, mais cette loi existe. Simplement, dans cette loi, il a été marqué à l'époque que le gouvernement a 5 ans pour mettre en place ces régions. Donc, la loi a prévu une mise en place progressive. Donc, le gouvernement, en décidant de créer ces deux régions, n'a pas du tout fait dans l'illégalité.
On se rappelle que la demande de création de ces deux régions, en plus des deux autres régions du Nord, par les rebelles, avait été objet de désaccord dans l'élaboration de l'accord de paix. Alors, quel enjeu la création de ces deux régions auront sur le processus de paix au Mali?
Moi, je crois que globalement, pour l'accord, parce que bon, j'en parle en connaissance de cause, j'étais un des négociateurs de l'accord Alger. Donc l'accord a prévu, en plus des questions de paix, de sécurité, d'intégration, il y a tout un volet institutionnel qui est basé sur la régionalisation. L'accord a prévu de mettre en place des régions qui auront comme vocation principale de promouvoir le développement du territoire. bien sûr en respectant les spécificités de chaque zone du Mali. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de l'accord même, et même avant l'accord, je crois que dans les réformes qui étaient prévues avant même le processus d'Alger, qui sont issues des états généraux de la décentralisation qui ont été organisés depuis octobre 2013, un mois et quelques avant, après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, il était prévu d'aller dans la régionalisation qui prévoit l'augmentation du nombre de régions. Parce que pour faire le développement du territoire aujourd'hui, nos régions actuelles ne sont pas dans un format idéal.
Pour vous, il y avait une urgence de mettre ces régions-là en place.
L'urgence, c'est parce que c'est prévu dans l'accord. Et l'accord a un calendrier de mise en œuvre. Je crois que c'est pour ça peut-être le gouvernement a mis... Maintenant, moi, je ne suis pas dans le gouvernement. Moi, je suis un indépendant aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qui a poussé le gouvernement à mettre en place. Mais je crois que c'est fait dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Puisqu'il y a un calendrier qui est prévu dans la mise en œuvre de l'accord. Et le calendrier prévoit peut-être la création de la région de Taoudéni et de Menaka, qui sont des régions légalement, même si elles n'étaient pas en place, légalement, elles sont créées à côté d'autres régions. Peut-être les autres régions vont venir progresser. Tant que la loi n'a pas changé, le gouvernement est obligé de les mettre en place, surtout si c'est demandé par les gens de la zone.
C'était Ousmane Sy, l'ancien ministre de la décentralisation, au micro de Kadiatou Traoré.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En RDC, Moïse Katumbi, gouverneur honoraire du Katanga, et le G7 ont appelé à la prière en pleine ville, bravant ainsi la décision du maire de Lubumbashi qui interdit les manifestations sans autorisation sur les lieux publics. La correspondance de Narval Mabila à Lubumbashi.
C'est sur son compte Twitter que le gouverneur honoraire de l'ex-grand Katanga, Moïse Katumbi, appelait les Congolais à prier pendant 2 à 3 minutes à l'heure de l'angélisme de midi pour le pays, les autorités, les élections et les martyrs. La mise en application de cet appel devant les lieux publics par certains leaders du G7 erre à la décision du maire interdisant toute manifestation publique à caractère politique. Une situation qui engendrait quelques incidents, comme nous explique un Louchois qui garde l'anonymat pour raison de sécurité.
Au niveau de la poste ici, j'étais là, j'ai vu l'honorable président Kiongwa Kumanza, papa Mwando et Christian. Ils étaient là. Subitement, après avoir terminé leur prière, on a largué de militaires terribles. On avait mis la main sur deux personnes de l'UNAFEC, et même un journaliste de la radio BBC. J'étais là, c'était à ma présence.
Du côté du G7, on n'est pas prêt à baisser les bras. Explication du maître Moukassa au cadre de l'UNAFEC.
Pour qu'il n'y ait pas le pichon d'Ifa, pour qu'il n'y ait pas de troubles, alors maintenant, le gouverneur honoraire, l'honorable Moïse Katumbi Tchafoué, a exhorté les chrétiens d'intercéder et de recommander des élections auprès de l'Éternel. Mais nous sommes surpris, nous voyons vraiment le régime en place qui déploie les policiers, qui déploie les militaires, assurant la liberté de quelqu'un. Parce qu'on commence maintenant à intimider les gens. Bon, nous allons continuer, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer.
Pour le responsable de la police, on ne fait que respecter la loi et les décisions des autorités légalement établies. Général Jean Bosco Galinga.
Sont-ils autorisé par le maire de la ville pour faire cette prière? Si oui, il n'y a aucun problème, la police le laissera faire. Sinon, nous devons respecter les instructions du maire de la ville qui interdisent tout mouvement politique, tout rassemblement politique important sans autorisation. La police n'est derrière personne. Prier n'est pas une infraction. La liberté du culte est même garantie par la Constitution. Les rassemblements, les grands rassemblements, soient-ils politiques ou autres, non autorisés ne peuvent pas se tenir, ils sont interdits. La plupart ne sont pas nouveaux, ni dans la politique, ni dans l'administration. Ils savent comment se passe l'administration.
Certains de choses sont très critiques. À l'appel de prière lancé, explication de John Lompongo.
L'histoire de prière, les gens de Moïse et de Kiongo, ils s'échouent de la population congolaise. Ce sont les mêmes gens qui ont dit aux gens de voter Kabila, de voter ce qui était utile. Les gens ont voté ce qui était utile. Maintenant, Kabila est devenu mauvais. Ils doivent être sérieux dans tout ce qu'ils font. Selon moi, ça ne me concerne pas. Et Moïse, il a laissé la politique, il est devenu pasteur ou quoi. Peut-être les gens peuvent le faire, mais moi je ne peux pas faire si Moïse me recommande cela. Pendant 8 ans, tous ces temps, depuis Kabila est au pouvoir. Quand les gens sont Kabila travaillent jusqu'à ce qu'il épuise son mandat.
Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
États-Unis, Iran, quelques jours après que le président Barack Obama se soit félicité des fruits de la diplomatie avec l'Iran, les parlementaires républicains au Congrès font pression pour l'adoption de sanctions encore plus dures contre Téhéran. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Pendant que les sénateurs se dépêchent de quitter Washington avant la grande tempête de neige que l'on prédit pour la région cette fin de semaine, plusieurs républicains ont parlé de l'Iran. Parmi eux, la sénatrice Kelly Ayotte.
Nous devons tenir tête à ce régime iranien. Leurs tests illégaux de missiles balistiques et leur soutien continu à la prise d'otages. Nous allons imposer des sanctions plus dures.
De son côté, le sénateur John McCain, l'adversaire républicain de M. Obama en 2008, a accusé le président d'être tellement attaché à l'accord sur le nucléaire iranien qu'il a fermé les yeux sur les provocations de l'Iran.
Et ce secrétaire d'État font tout pour plaire aux Iraniens. Peu importe ce que ces derniers font, peu importe l'offense qu'ils vont subir. Monsieur Obama et Kerry ne feront absolument rien. Ce sera donc au Congrès d'agir.
Les parlementaires républicains n'ont pas précisé les mesures punitives qu'ils envisageaient à l'encontre de l'Iran. Mais on se rappelle que dimanche dernier, le président Barack Obama a salué la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien signé l'an dernier avec Téhéran par les États-Unis et leurs partenaires du P5+1.
Au terme de cet accord sur le nucléaire que nos alliés, partenaires et nous-mêmes avons conclu l'an dernier, l'Iran ne mettra pas la main sur une bombe nucléaire. Nous sommes parvenus à ce progrès historique grâce à la diplomatie sans recourir à une autre guerre au Moyen-Orient.
En tout état de cause, pour l'adoption de sanctions, toute proposition de loi des républicains devra bénéficier du soutien d'un certain nombre de sénateurs démocrates pour être approuvée. Or, l'an dernier, le rejet de l'accord sur le nucléaire a été bloqué au Sénat quand la minorité démocrate a empêché les républicains d'obtenir la majorité des deux tiers requises.
Un plaisir de vous retrouver, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique, dans Carrefour Sciences et Santé de samedi à 18h30, dimanche à 20h30 et mardi à 18h05, temps universel. Si vous voulez vous procurer de l'huile riche en protéines, les insectes en constituent la source. La première fleur a fleuri dans l'espace, c'est un zinnia à découvrir dans Carrefour. Aux amateurs automobiles, une voiture intelligente se profile à l'horizon, vous n'aurez pas besoin de la conduire. La balle de match, le Powerball, la technologie et le hasard vous offrent l'opportunité de devenir millionnaire aux États-Unis. Ne ratez pas votre Carrefour. Spider-Man, votre héros à rencontrer, pourrait vous échapper. Eric Manilakiza sera en votre compagnie.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-8540. Je répète, 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique sur la voie de l'Amérique en direct de Washington. C'est la fin de cette édition. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.